Menace de fermeture administrative pour le 1881 après les violences du week-end. La décision devrait être prise d'ici la fin de la semaine. Une première depuis 30 ans, la consommation d'électricité a chuté en 2024 en Calédonie. La fermeture de KNS, le ralentissement de l'activité des autres industriels et la résiliation de 2000 contrats expliquent cette tendance selon Enercal. Manque de confiance et des indicateurs toujours à leur plus bas historique. L'économie calédonienne continue de souffrir selon la dernière note de conjoncture de l'IOM. À l'étranger, collision entre un pétrolier et un cargo en mer du Nord. Les côtes anglaises sont sous la menace d'une marée noire. Et puis en sport, début difficile pour les joueuses de cricket calédoniennes qui composent l'équipe de France. Elles ont perdu ce matin leur premier match du tournoi international féminin au Stade Ndu face aux Vanuatuses. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Notez d'ores et déjà ce rendez-vous parce qu'il va bientôt falloir vous pencher sur votre déclaration de revenus 2024. Comme chaque année, nous allons nous mettre à votre service. Y a-t-il des nouveautés, des dispositifs particuliers, des infos pratiques à savoir ? Rendez-vous ce midi, juste après ce journal, dans le magazine Citoyen. Vous pourrez poser toutes vos questions à nos invités. Éric Ferré, qui est chef du service de la fiscalité des particuliers à la direction des services fiscaux, et à son adjoint, Christopher Nguyen. Vous pourrez leur poser vos questions en direct pendant l'émission en appelant au 25 46 46. Mais vous pouvez aussi le faire dès maintenant, ce que certains auditeurs ont déjà fait, en envoyant votre question par mail à rrb@lagoun.nc, rrb@lagoun.nc. Remplir sa déclaration de revenus 2024, c'est donc dès la fin de ce journal dans le magazine Citoyen. Le 1881, sous la menace d'une fermeture administrative après la rixe du week-end, 300 à 400 personnes, je vous le rappelle, fortement alcoolisées, se sont violemment affrontées avec les forces de l'ordre. 7 personnes ont été blessées, dont un gendarme et un policier. Les participants à cette rixe étaient tous des participants à la soirée du 1881. Le gérant de l'établissement a été reçu au Haut-Commissariat hier soir et une procédure de sanction administrative de l'établissement a été ouverte. Elle pourrait aboutir à une fermeture temporaire d'ici la fin de la semaine, a indiqué hier soir Anaïs Haït Mansour, directrice de cabinet du haut-commissaire.
Le gérant de l'établissement 1881 a des devoirs, a des responsabilités. Il est à la fois victime et responsable des événements qui se sont passés dans la nuit de samedi à dimanche. Aussi, nous allons entrer dans une procédure de sanction administrative qui a été ouverte ce jour. Nous l'avons reçue au commissariat et nous lui avons notifié une mise en demeure, période durant laquelle il aura l'occasion de faire part de ses observations en vue d'une fermeture administrative que nous prononcerons à son encontre d'ici la fin de la semaine.
Dans les jours qui viennent, le haut-commissaire va également recevoir l'ensemble des gérants et responsables de bars et établissements de nuit et dans un but bien précis.
Leur rappeler les règles, leur rappeler leurs responsabilités, leur rappeler leur objectif en matière de prévention des troubles à l'ordre public. Nous allons être vigilants, nous regardons l'événement de ce week-end avec discernement, nous le traitons, nous allons mettre en place des mesures administratives. Un volet judiciaire est en cours et sur le reste des événements dans le Grand Nouméa, nous restons mobilisés, nous restons vigilants et en fonction des éléments dans les prochaines semaines, nous n'excluons pas de reprendre des mesures administratives de restriction, mais avec toujours discernement au regard des éléments que nous avons. Ça pourrait être une reprise des restrictions de vente d'alcool, c'est quelque chose qu'on envisage, étant donné que l'alcool est le facteur de l'ensemble de ces éléments. Cette rixe reste une rixe à l'abord d'un établissement de nuit, ce qui peut arriver, mais il faut rappeler les règles et rappeler les responsabilités de chacun, et nous le ferons.
La directrice de cabinet du haut-commissaire Anaïs Haït Mansour. Et puis notez que le haut-commissaire réunit ce matin l'état-major de sécurité. Il s'agit de dresser le bilan de la délinquance en 2024. Nous y reviendrons ce soir dans nos rendez-vous infos de l'après-midi. Et puis deuxième et dernier jour du procès aux assises dans l'affaire de l'homme accusé d'avoir battu à mort un septuagénaire en octobre 2022. Le jeune homme âgé de 20 ans au moment des faits s'en était violemment pris à la victime de 79 ans sur un boulodrome de Rivière-Salée. Après avoir perdu sa recette de 20 000 francs provenant de la vente de cannabis, ce matin, le ministère public a requis 20 ans de réclusion criminelle. Les plaidoiries de la défense sont en cours et le verdict sera rendu dans l'après-midi. Dépôt de gerbes ce matin à la Croix-de-Lorraine. Une cérémonie était organisée à l'occasion de la journée européenne d'hommage aux victimes du terrorisme, décrétée après l'attentat de Madrid en 2004. Le président du gouvernement, Alcide Ponga, le sénateur Georges Naturel, le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, ainsi que les représentants des autres institutions et des forces armées, gendarmerie et police étaient présents ce matin. Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du Haut-Commissariat, était également présent et il a rappelé à cette occasion que la France ne céderait pas face au terrorisme.
C'est une journée particulière. C'est une occasion pour nous tous de nous rappeler qu'on ne doit pas céder. La France n'a pas cédé face au terrorisme. Elle n'a pas cédé dans son passé, elle ne cède pas aujourd'hui, elle ne cédera pas par la suite. La France reste unie, elle fait face, elle soutient les victimes et elle pourchasse les auteurs des actes de terrorisme. Cette démarche est la bonne et elle sera poursuivie partout. Malheureusement, les actes terroristes ne sont pas limités dans le temps. Et face à cela, il est important chaque année, effectivement, de se retrouver, de se rappeler des victimes et de conserver cette cohésion dans l'action. Face au terrorisme, la France n'a pas reculé par le passé et elle ne reculera pas dans l'avenir.
Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du Haut Commissariat. Pendant la cérémonie ce matin, deux médailles ont été remises en hommage à des personnes qui se sont distinguées face au terrorisme.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de l'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Selon un sondage, 6 Français sur 10 sont favorables au rétablissement du service militaire obligatoire. Et vous, si vous y êtes favorable à ce rétablissement du service militaire obligatoire, vous tapez 1. Si vous n'y êtes pas favorable, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 75% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que les différentes manifestations organisées à l'occasion de la Journée internationale de la femme ne peuvent pas contribuer à améliorer la situation des femmes calédoniennes. Ils sont 25% à être d'un avis contraire. Une première pause dans ce journal. On se retrouve pour évoquer la baisse de consommation d'électricité en 2024 annoncée ce matin par Enercal. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Besoin d'une clôture, nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
RRB 11h 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie est une première depuis 30 ans. La consommation d'électricité a chuté en 2024, constat dressé par Enercal ce matin, qui faisait le bilan de son activité 2024, Nicolas Legrand.
Oui, Jean-François, les violences de mai ont évidemment eu des répercussions sur l'activité du fournisseur d'électricité, à la fois sur la partie métallurgie, où l'activité industrielle a été fortement ralentie pendant des mois. Cela a entraîné une baisse significative de la consommation électrique, passant de 3200 gigawatts les années précédentes à 1905 gigawatts en 2024. Et la consommation des ménages a aussi évolué défavorablement avec une baisse de 7,5%. Écoutez Jean-Gabriel Faget, le directeur général d'Enercal.
Ça constitue une rupture à la fois parce que la métallurgie a moins bien fonctionné, notamment avec l'arrêt de KNS, la baisse de consommation de la SLN et l'arrêt pendant plusieurs mois de PRNC. Principalement des difficultés à accéder à certains sites industriels ou à opérer normalement, on le sait, hein, les mines et certaines usines. Et puis, d'une façon générale, le ralentissement économique en lien avec la crise. Et puis aussi, ce qu'on appelle, nous, la distribution publique, c'est-à-dire les clients en dehors de la métallurgie, qui ont vécu une année 2024 très compliquée avec une baisse des consommations, effectivement. On a noté que, à la fois sur les concessions du distributeur EEC et du distributeur Enercal, une perte de 2000 contrats par comparaison aux 115 000 que l'on avait avant la crise insurrectionnelle. Donc, effectivement, des contrats qui ont été résiliés pour différents motifs, ou bien des gens qui ont quitté le territoire, ou bien plus certainement des gens qui ont quitté l'agglomération.
Et avec l'arrêt de KNS, le charbon est passé de 55% du mix énergétique industriel à 13%. La part du pétrole, de la CAT, de la SLN notamment, a donc augmenté proportionnellement, passant de 26% à 70%. Mais dans l'ensemble du mix, la métallurgie consomme toujours la même proportion d'énergie carbonée à 80% et 20% d'énergie renouvelable avec le solaire et l'hydroélectricité. L'orientation de l'activité d'Enercal dépendra évidemment de la relance du secteur industriel.
L'orientation dépendra de la pérennité des activités industrielles de la métallurgie du nickel. Donc, selon qu'il y aura une ou trois usines de transformation de nickel en Nouvelle-Calédonie, on aura plus ou moins de consommation et ça façonnera différemment le système électrique, sachant qu'on ne perd pas de vue que un des moyens de faire gagner en productivité la métallurgie, c'est de lui apporter de l'énergie décarbonée à prix mieux maîtrisé. Et ça sera le gros enjeu de l'accompagnement des mois qui viennent dans les perspectives de reprise ou de continuité d'activité des trois usines. On a des visions assez claires et elles sont partagées par beaucoup sur les solutions à mettre en œuvre. Production thermique avec du gaz, beaucoup de photovoltaïque, mais certainement aussi beaucoup de stockage et notamment les STEP, donc du stockage hydroélectrique. Tout ça dépendant de la capacité à avoir des consommations de la métallurgie durable, puisque ce sont des investissements très significatifs qui ne trouvent leur rentabilité que dans des durées longues.
2024 aura aussi été marqué par la décision du Congrès d'apurer la dette historique liée à la composante de stabilisation qui n'avait pas été versée par le gouvernement pour compenser en fait le déficit structurel du système électrique calédonien. Ensuite, les trois augmentations du prix de l'électricité de 10% devraient également, décidées par le Congrès, devraient également permettre d'équilibrer le système électrique pour Enercal.
L'économie calédonienne reste profondément affectée et confrontée à une absence de perspective. L'Institut d'émissions d'Outre-mer a publié sa note conjoncturelle trimestrielle sur les mois de septembre à décembre 2024, Charlotte Coulson.
L'indice du climat des affaires est toujours très bas. L'ICA, qui représente le niveau de confiance des chefs d'entreprise en l'avenir, avait atteint son plus bas historique à la suite des émeutes du deuxième trimestre 2024. En fin d'année, il progresse légèrement de 3,3 points, mais reste faible. Même si la situation sécuritaire du territoire s'est améliorée, l'Institut indique que c'est l'absence de perspectives politiques précises qui freine l'investissement des entreprises. Il ajoute dans sa note que 42% des entreprises craignent encore une défaillance dans un horizon de 12 mois. Dans ce contexte, les indicateurs sur l'emploi poursuivent leur nette dégradation. Plus de 11 000 emplois pourraient avoir été détruits entre le premier et le quatrième trimestre 2024, sur un total de 66 588 emplois salariés au début de l'année 2024. Le secteur du BTP, notamment, est toujours à l'arrêt, avec un fort pessimisme des professionnels quant à l'avenir du secteur, indique l'IEOM. L'indice des prix à la consommation est quant à lui en légère hausse. Les prix augmentent de 0,6% entre septembre et décembre. Par ailleurs, la consommation des ménages ne s'est pas effondrée en fin d'année, même si elle n'a pas rattrapé le retard pris en mai et juin de l'année passée. Malgré tout, quelques indicateurs pourraient esquisser une amorce de reprise, notamment la légère hausse des prêts octroyés aux ménages ou encore le nombre de croisiéristes visitant le territoire qui a timidement augmenté entre septembre et décembre 2024.
Dans le reste de l'actualité en Calédonie, en bref, les élus du Congrès réunissent maintenant en commission plénière. Ils assistent à une présentation par le directeur aux Outre-mer et directeur régional de la Banque des Territoires, Hervé Tonnerre, des mesures prises en 2024 pour accompagner les collectivités, les bailleurs sociaux et les établissements publics de Nouvelle-Calédonie. Et puis les loyalistes organisent plusieurs réunions publiques pour informer les Calédoniens sur la visite de Manuel Valls et les négociations en cours. Ils seront ce soir à Bouraï à 18h au Colisée. Demain, mercredi, ils tiendront une réunion à Koné à 17h30 au Pitiri. Et jeudi, ils seront à Païta pour une réunion publique qui se tiendra à 18h au doc socio-culturel. Il est 11h43, une nouvelle pause avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde, et notamment cette collision entre un pétrolier et un cargo en mer du Nord.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Il y a du nouveau sous la halle de Ducosse. Le marché de Ducosse ouvre maintenant ses portes chaque mercredi, de midi à 17h. Près d'une quarantaine d'exposants vous y attendent. Poissons, crustacés, fruits, légumes, œufs, charcuterie, achats, confitures, il y en a pour tous les goûts. Votre marché préféré, c'est désormais aussi le mercredi, et c'est dès midi.
RRB Recherche, un agent commercial patenté. Contactez-nous au 25 46 46 ou par mail à rrbpub@lagoon.nc. Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Et les côtes britanniques sont sous la menace d'une marée noire. Un cargo a percuté un pétrolier en mer du Nord. Le pétrolier était affrété par l'armée américaine. Les deux navires se sont embrasés. Il y aurait à l'heure actuelle une trentaine de blessés et un disparu. Et d'importants moyens de secours ont été déployés. Maxime Gondelot pour Europe 1.
Tout commence à 11h ce matin. Les gardes-côtes britanniques reçoivent un message de détresse. Le pétrolier Stena Immaculate, affrété par l'armée américaine, est à l'arrêt sur sa route vers le Royaume-Uni depuis la Grèce. Il a été percuté par le porte-conteneurs Solong, battant pavillon polonais, parti des Pays-Bas à destination de l'Écosse. Sur des vidéos diffusées par les médias britannique, on voit un important panache de fumée et de grandes flammes s'élever au-dessus des deux navires. Pour l'instant, les circonstances exactes de la collision ne sont pas connues. Un important dispositif de secours a été déployé. Hélicoptères, canots de sauvetage, avions ou encore des navires capables de lutter contre les incendies. Cet accident a fait au moins 32 blessés, sans information précise sur leur état actuel. Le propriétaire du pétrolier a de son côté indiqué plus tôt dans la journée à la BBC que l'intégralité des effectifs, soit plus de 20 personnes, est en sécurité. À ce stade, le risque de marée noir sur les côtes britanniques est jugé préoccupant. Le pétrolier, long de 183 mètres, transporté du kérosène contenu dans différentes citernes, au moins l'une d'entre elles est percée et donc laisserait échapper le combustible polluant. De son côté, le porte-conteneur embarquait au moins 15 conteneurs de cyanure de sodium, une substance très inflammable. L'ONG Greenpeace se dit extrêmement préoccupée par les multiples risques toxiques engendrés par cette collision ce soir.
Emmanuel Macron se pose en allié des pays en première ligne face à la menace russe. Certains l'accusent de noircir le trait, d'autres louent sa clairvoyance. Quoi qu'il en soit, le président français a choisi sa ligne de conduite et il l'a réaffirmé en recevant à l'Élysée la présidente moldave. À cette occasion, il a alerté sur les ambitions sans limite, selon lui, de Vladimir Poutine.
Depuis 3 ans, votre pays subit de plein fouet les conséquences humaines et économiques de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. La Moldavie, dont l'espace aérien est régulièrement violé par des drones et missiles russes, doit également faire face à des tentatives russes de plus en plus désinhibées de déstabilisation, ciblant en particulier les institutions démocratiques de votre pays. Nous avons décidé de renforcer encore notre coopération pour accroître la résilience de la Moldavie vis-à-vis des ingérences étrangères.
Et c'est dans ce contexte que doivent s'ouvrir la nuit prochaine pour nous en Arabie Saoudite les premières négociations de paix entre les délégations américaines et ukrainiennes. Et de son côté, le ministre français des Affaires étrangères entame une tournée pour expliquer aux Français le contexte international et ses éventuels impacts sur la vie quotidienne des Français. Il entend se rendre dans une région par mois et doit commencer par Nantes. Le nouveau régime syrien pointé du doigt dans les violences qui ont secoué l'ouest du pays ces derniers jours. L'intervention des forces de sécurité du nouveau régime se solde par un bilan de plus de 1000 victimes civiles, principalement des Alaouites, minorité fidèle au président déchu, Bachar el-Assad, mais aussi de nombreux chrétiens. Une opération qui a pris fin cette nuit pour nous, Antoine Bienveau pour Europe 1.
Le régime syrien a annoncé ce matin la fin de ce qu'il qualifie lui-même d'opération militaire lancée jeudi dernier. Selon le dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 1000 personnes ont été tuées dans ces massacres imputés aux forces armées du pouvoir islamiste. Parmi les victimes, on dénombre en grande partie des membres de la minorité alaouite, mais aussi des chrétiens d'Orient et des Kurdes. Le président par intérim Ahmad al-Sharen nie sa responsabilité et dit vouloir traduire les auteurs de ces exactions en justice. Un discours de façade selon Fabrice Balanche, géopolitologue et spécialiste de la Syrie.
Aujourd'hui, il continue à avoir ce discours pacifique en disant que ce sont des éléments incontrôlés, qu'une commission d'enquête va être mise en place pour juger les coupables, etc. Mais il n'en sera rien. C'est du vent tout ça. C'est juste pour se justifier et éviter que le processus de normalisation avec l'Europe, avec les États-Unis ne soit remis en cause.
Car depuis ce week-end, la communauté internationale a en effet largement condamné les massacres observés dans le pays. Londres, Paris ou encore Berlin, tous dénoncent des violence intolérable en Syrie.
L'actualité à l'étranger, ce sont aussi ces nouvelles rassurantes sur la santé du pape hospitalisé depuis le 14 février pour une double pneumonie. Nouvelle rassurante parce que son pronostic vital n'est plus réservé. Il reste toutefois à l'hôpital pour l'instant, mais pourrait sortir dans quelques jours. En métropole, l'ouverture du procès d'une enseignante d'un collège de région parisienne. En juin 2019, la jeune Eva L., 11 ans, victime de harcèlement, se donnait la mort. Elle était régulièrement moquée et humiliée par d'autres élèves, mais aussi par cette enseignante qui comparaît donc devant le tribunal correctionnel pour harcèlement sur mineurs. Au chapitre économique, 2024, année difficile aussi en métropole pour les entreprises. Près de 61 000 patrons ont perdu leur emploi l'an dernier. C'est plus 18% par rapport à 2023 et c'est le chiffre le plus haut depuis 15 ans. Les secteurs principalement en difficulté sont la construction, les agences immobilières et le transport logistique. Stupeur a tremblé en France, en Seine-Saint-Denis. La maison d'une élue municipale a été victime de tirs de Kalachnikov. Cet incroyable déchaînement de violence découlerait d'un banal incident de la circulation. Les explications de Théo Grévin pour Europe 1.
Tout commence samedi après-midi quand un homme accompagné de son fils se voit refuser la priorité par un autre véhicule. S'ensuit une altercation entre d'un côté les occupants de la voiture fautive et de l'autre le père de famille qui est par ailleurs marié à une adjointe au maire de la commune de Tremblay en France. Et l'affaire va prendre une toute autre tournure quand les suspects reviennent 3 heures plus tard, cette fois devant le domicile de la famille. Ils sont plusieurs encagoulés et armés de Kalachnikov. 15 impacts de balles seront dénombrés sur la façade. Un déchaînement de violence surréaliste pour cette habitante du quartier.
Vous avez vu la maison dans l'état où elle est ? C'était un petit bled, on se dit, petit bled tranquille. Ben non, il n'y a plus de petit bled tranquille.
Le père et la mère, ainsi que leurs 2 enfants, tous présents à ce moment-là, n'ont pas été blessés. Un miracle selon Grégory Goupil, il est secrétaire zonal du syndicat de police Alliance en Seine-Saint-Denis.
Vous êtes impacté avec une balle de Kalachnikov dans le corps, ça vous arrache un membre. Imaginez cette famille, imaginez les conséquences pour cet élu. Enfin, c'est des gens qui vont plus dormir la nuit.
Alors pour le moment, les enquêteurs n'établissent aucun lien entre sa fonction d'élu et les coups de feu. C'est bien la banale altercation routière qui serait à l'origine de cette fusillade. Un jeune homme de 21 ans a été interpellé peu après les faits. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide en bande organisée.
Et il y a quelques heures, une deuxième personne a été placée en garde à vue dans le cadre de cette enquête. 11h51. Une minute, dans un instant on parlera sport, nous parlerons tennis à Indian Wells et cricket féminin à Nouméa.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Vous êtes professionnel ou étudiant en santé et vous souhaitez comprendre et intégrer les savoirs traditionnels dans les systèmes de soins? L'Université de la Nouvelle-Calédonie vous propose des formations en ethnomédecine, soins traditionnels et pharmacopée des cultures océaniennes pour vous doter d'une expertise unique et répondre aux enjeux de santé en incluant les savoirs locaux. Formation éligible à une aide de l'État. Infos et inscriptions sur le site unc.nc ou au 290 490.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
On va commencer par le tennis pour la suite des 16e de finale de l'Open d'Indian Wells, Léana.
Et oui, en début d'après-midi, Gaël Monfils tentera de décrocher sa place pour les 8e de finale face au Bulgare Grigor Dimitrov, 15e du classement ATP. Hier, l'autre Français en lice, Arthur Fils, s'était déjà qualifié. Autre match attendu, celui de Carlos Alcaraz, qui défiera dans moins d'une heure Denis Shapovalov. Ben Shelton joue actuellement contre le Russe Karen Khachanov. Et léger avantage à l'Américain qui a remporté le premier set. Victoire ce matin du numéro 4 mondial, l'Américain Taylor Fritz sur Alejandro Tabilo en 3-7, 4-6, 6-3, 6-1. On notera également les résultats des Français engagés en double dans ce championnat. Défaite en 2-7 d'Arthur Fils et Hugo Humbert contre les Américains Christian Harrison et Evan King, 6-3, 6-2. Enfin, le tricolore Édouard Roger Vasselin et le monégasque Hugo Nice l'ont emporté en 2-7 face aux Français Sadio Doumbia et Fabien Reboul, 6-4, 6-2.
Le sport sur le territoire avec du cricket féminin et des débuts compliqués pour l'équipe de France ce matin qui participe au tournoi international, Léo Fichou.
Oui, l'équipe de France composée, je le rappelle, en intégralité de joueuses calédoniennes, s'est lourdement inclinée face aux Vanuatu, une défaite 123 à 45. Les Vanuatuaises ont fait parler leur expérience sur la pelouse du stade Indu face à des calédoniennes qui disputaient leur premier match de cricket international en compétition. On écoute Harmonie Connue, joueuse de l'équipe de France qui a marqué 8 points ce matin pour la Calédonie.
Les Vanuatuaises en meilleure forme qu'hier. Elles étaient beaucoup en réussite et nous, ce qui a manqué, c'est d'attaquer nos balles et puis de taper en bas. C'est une première pour nous et elles ont fait une belle démonstration sportive qu'on va essayer de prendre ce qu'il y a de positif chez elles pour pouvoir le mettre en application contre Samoa demain.
Et le positif pour vous, c'est que c'était un premier match, c'est quand même une belle expérience?
Oui, complètement, c'est que du positif. Donc on est satisfaites, c'est une première pour nous les Calédoniennes et on voudrait prendre plaisir encore demain.
Et les Calédoniennes sous la bannière de l'équipe de France rejoueront demain matin dès 8h30 contre les Samoa. Mais avant ça, l'équipe des Samoa sera opposée cet après-midi au Fidji. La rencontre est prévue à 13h30.